Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Pendant une heure, nous allons découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, vous êtes au bon endroit pour respirer une bonne dose d'optimisme. Au sommaire de votre émission, comment éviter le cataclysme dans les aéroports cet été? Il est le leader mondial des passeports biométriques, l'un des leaders sur les contrôles d'accès dans les aéroports. Les parafes dans les aéroports, ces cabines, hein, vous savez, qui permettent de montrer votre passeport sans passer par un agent. C'est eux. Comment se prépare cet été au moment où la reprise du trafic aérien s'intensifie? Toutes les réponses avec le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales, Philippe Vallée. Il est l'invité de La France bouge. À la une, en effet, la sécurité au cœur de cette France bouge et de la reconnaissance faciale sans dévoiler l'identité de la personne. C'est une start-up française qui a mis au point cette technologie. Elle s'appelle Outsight et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, pas de sécurité sans coffre-fort, sans clé. Fichier Group en fabrique depuis le 19e siècle. C'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI. Et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, on reçoit Netiful. C'est une solution de protection Internet pour les enfants un peu nouvelle.
Un peu nouvelle. Rendez-vous à 13h45 pour découvrir Netiful. Et puis en fin d'émission, demain au travail, une entreprise qui forme ses salariés à la cybersécurité. On passera un coup de fil chez MGI. C'est ça, La France bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, ça se passe ici, à La France bouge. Et en ce début du mois de juillet, on le voit, la reprise dans les aéroports est bien là. Les passagers sont au rendez-vous, mais ça ne suit pas toujours dans la fluidité, notamment enregistrement, vérification des passeports, contrôle de sécurité. Derrière tout cela, il y a des technologies et des technologies françaises. On va en parler avec notre invité du jour et nos startups jusqu'à 14h. Bonjour Philippe Vallée.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes Merci. Le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Alors Thales, c'est une entreprise, on connaît tous le nom.
Ah oui.
Hein, c'est une entreprise qui travaille dans plusieurs domaines, notamment dans l'aérospatiale. C'est l'aide à la navigation dans les avions. Ce sont les satellites d'observation de la Terre pour la météo, pour Météo France notamment. C'est aussi une activité de défense. Tous les systèmes de protection que l'on trouve sur les bateaux, sur les avions, mais aussi la sécurité et l'identité numérique. Thales, c'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes au cœur des transformations de la société, protection des données, de la vie privée, mais aussi de l'environnement, avec pour objectif construire un monde plus sûr, un monde où nous sommes plus en sécurité. Alors Philippe Vallée, ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, c'est le milieu aérien. Et on le sait, Thales met tout en place pour améliorer l'expérience du passager. On s'attend à un rebond des passagers cet été après 2 années de crise sanitaire. Alors, ça redémarre en ce moment. Vous, du côté de chez Thales, comment ça va? Comment vous voyez cette situation?
Bah, écoutez, c'est d'abord une opportunité, puisque c'est pas une situation qui est très attachée en fait à la situation post-pandémique, évidemment. Et il était très très difficile de prévoir comment cette reprise allait se faire. Mais bien avant la crise du Covid, en fait, on travaillait déjà avec nos partenaires, que ce soit les autorités de police, hein, de l'immigration, mais aussi les autorités aéroportuaires, pour justement améliorer la fluidité des passagers à travers ces plateformes extrêmement sécurisées que sont les aéroports internationaux.
Mais c'est ça, tout est sécurisé aujourd'hui. On le voit, il y a de la technologie partout et c'est passionnant quand on rentre dans le détail, on voit que Thales, nos entreprises françaises sont là et bien là. Vous intervenez à quel moment? Puisque vous faites en sorte que chacune des étapes dans les aéroports se fasse de manière la plus fluide possible pour nous passagers.
Oui, tout à fait. Alors, ce que le Covid a amené, si vous voulez, c'est aussi la notion de sans contact. Hein. L'idée, c'était d'éviter de toucher et donc une espèce d'expérience
qui s'est accélérée.
Et l'idée, en fait, démarre de l'émission de votre carte d'embarquement, qui souvent se fait depuis un smartphone ou un
C'est vrai, on l'imprime plus maintenant.
Oui, on l'imprime plus. Donc, et l'idée, c'est de créer aussi votre identité biométrique au moment de la création de cette carte d'embarquement. Autrement dit, vous photographiez et vous attachez cette photographie à votre carte d'embarquement. Moyennant quoi, vous pouvez passer de façon automatique un certain nombre d'étapes. Alors, ce n'est pas forcément toutes les étapes, ça dépend des aéroports, ça dépend des pays.
On prend l'entrée, on arrive dans l'aéroport, on a notre bagage, vous intervenez à quel moment, quelles sont les étapes?
Voilà, première des choses, en fait, c'est le dépôt du bagage. Hein, alors souvent, dans certains aéroports, je pense en Inde par exemple, c'est le contrôle à la sécurité à l'arrivée même de l'aéroport. C'est, vous ne pouvez pas, même pas rentrer dans l'aéroport sans vous faire identifier. Bon, première vérification de votre identité grâce à la comparaison de votre photographie et de votre carte d'embarquement. Vous rentrez dans l'aéroport et vous devez déposer votre bagage. L'appareil en fait, qui se situe vraiment à l'émission de l'étiquette bagage vous reconnaît grâce à la photographie, va chercher la correspondance par rapport à votre carte d'embarquement et va émettre automatiquement votre étiquette bagage. Vous n'avez même plus à taper les coordonnées de votre vol.
Donc tout ça, c'est de la reconnaissance faciale.
Oui, alors on va utiliser un gros mot. Hein, on fait de la reconnaissance faciale.
Cette reconnaissance. Mais pourquoi un gros mot?
Parce que en fait, c'est souvent quelque chose qui est attaché à une connotation un peu négative.
Oui, le contrôle,
c'est nécessaire, c'est la sécurité.
Voilà, oui. Oui, alors tout à fait. Et l'idée fondamentale dans cette affaire, en fait, c'est que cette photographie et ce dossier n'est que temporaire. En fait, il disparaît au moment du décollage de votre avion. Hein. C'est vraiment pour permettre en fait les différentes étapes entre l'émission de cette carte d'embarquement et le fait que vous vous asseyez sur votre siège.
Alors vous êtes un géant mondial, on peut le dire, mais finalement vous êtes un sous-traitant puisque vous entrez dans la création de différents produits. Comment vous créez vos produits avec vos clients? Typiquement, de ce que vous venez de nous dire, vous avez des clients avec qui vous testez. Enfin, comment ça se passe?
On fait des phases de pilotage. On fait des phases de pilotage avec
en vrai dans un vrai aéroport.
Et on regarde comment se passe l'expérience du client et on regarde ce qu'il faut changer. Je vous donne un exemple très concret. Il y a de ça quelques années, en fait, Paraf n'était équipé que de la lecture de l'empreinte digitale.
Alors Paraf, pour que nos auditeurs comprennent tous, c'est les petites cabines transparentes.
Exactement.
Quand on fait la queue avec notre passeport, au lieu de tomber nez à nez avec un agent, il y a un agent qui va nous aider à scanner notre aéroport. Alors souvent, on ne sait pas si c'est à l'horizontale, à la verticale. Donc voilà, au début, quand on ne connaît pas,
ça marche pas tout. Oui, c'est
on
vrai.
On fouille pas trop le trafic en vrai. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est vous en fait qui êtes derrière cette technologie.
C'est nous qui sommes derrière la technologie. Mmh. Et ce que je voulais vous dire en fait, pour augmenter la vitesse de passage au portail Paraf, en fait, on a rajouté la photographie il y a quelques années. Au début, on ne lisait que l'empreinte digitale.
Oui, c'est vrai,
par comparaison, en fait, de votre doigt avec ce qui était stocké
dans votre
passeport.
Et vous devez mettre le doigt à l'époque. Maintenant, c'est la tête.
Maintenant, en fait, on compare.
Et c'est plus sécurisé, ça va plus vite?
Plus sécurisé, ça peut aller plus vite parce qu'en fait, l'accès à la photographie dans le passeport est un petit peu plus rapide. On parle de millisecondes, hein, mais chaque milliseconde compte dans un aéroport.
Oui, multiplié par X millions de passagers. Oui.
Mais alors, ça, c'est pour l'accès, pour faire vérifier son passeport. Donc là, Thales intervient grâce à cette technologie. Sauf qu'après, souvent, c'est le contrôle des bagages.
Oui.
Donc là aussi, est-ce que vous avez mis en place des technologies ou est-ce que vous intervenez aussi à ce niveau-là?
Alors, il se trouve que Thales intervient aussi dans le domaine médical et on fait des scanners. Voilà, on fait des scanners et on a mis au point une nouvelle technologie, en fait, qui est le scanner habituel, hein, celui que vous voyez, le tunnel dans lequel vous mettez votre bagage. Sauf que ce scanner est beaucoup plus précis et permet de détecter, en fait, les appareils électroniques, les liquides et permet, en fait, aux passagers de ne pas sortir tous leurs produits de leur bagage.
Bah alors, va falloir qu'on m'explique. Alors, pourquoi vous dites qu'on ne peut pas les sortir, mais finalement, on doit toujours les sortir.
Non, mais avec les technologies actuelles.
Ah, mais
cette nouvelle invention,
pas encore implémenté.
C'est une invention, c'est un produit que Thales a sorti qui s'appelle XView, qui permet justement, avec un scanner beaucoup plus précis, une reconnaissance photographique. Bref,
on saura si c'est de l'eau ou
c'est comme en médecine, si vous voulez. Hein, les scanners ont fait beaucoup de progrès pour détecter de plus en plus d'anomalies les plus petites possibles sur un corps humain. Et bien, en fait, on utilise les mêmes technologies pour aller scanner votre bagage sans vous obliger à sortir vos produits de beauté.
Alors ça va vraiment faire gagner du temps.
Ça va révolutionner le temps d'attente.
Ah oui, parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui, c'est sortir son petit truc d'eau, le mettre dans le sachet, machin.
Ouais,
c'est ça qui bloque.
C'est vrai, c'est ça qui bloque. Et donc ça, ce que vous nous annoncez là, Philippe Vallée, c'est une révolution dans les aéroports.
Alors, je veux dire, c'est une évolution. Alors, effectivement, il faut, parce que
Nathalie a raison, ça prend tellement de temps et on ouvre le bagage.
On a oublié. Ah, vous avez bien machin. Ah non, je l'ai oublié.
Le médicament, il faut
machin. Mais oui.
Donc là, vous...
Ça va permettre, si vous voulez, ça va permettre de détecter une petite bouteille d'eau, son volume, ses dimensions sous une pile de vêtements. Enfin, c'est beaucoup plus précis. Simplement, on vient améliorer la technologie pour permettre, encore une fois, l'amélioration de cette ergonomie, de cette expérience passager. En fait, la question, c'est toujours la même chose. C'est le bon compromis entre la sécurité et l'ergonomie, l'expérience passager. Et en fait, on travaille en permanence sur cet équilibre.
C'est passionnant. Et alors, donc, cette innovation-là de XView, c'est ça?
LXView,
on va la voir quand dans nos aéroports?
Elle est disponible aujourd'hui. En fait, on la lance.
C'est bien.
Et maintenant, on va répondre à des appels d'offres.
C'est
on va travailler avec les autorités pour l'intégrer dans des concours qui vont nous permettre de l'installer au fur et à mesure.
Quand vous dites concours, ça veut dire que vous avez beaucoup de concurrents?
Alors, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on est relativement en avance. On est plutôt à la pointe dans ce domaine. Mais vous savez, en fait, qu'on travaille... un aéroport, c'est un écosystème, comme on dit, assez complexe. Hein. Vous avez les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires, vous avez la police de l'arrêt des frontières. Donc ça, c'est des gens, des entreprises, des entités qui cohabitent. Et souvent, vous prenez par exemple un terminal américain, le terminal va être complètement la possession de la compagnie aérienne. Là, vous n'avez qu'un seul acheteur. Mais quand vous installez en équipement de ce type-là, il faut convaincre Aéroport de Paris, il faut convaincre la sécurité et donc éventuellement la police de l'arrêt des frontières, parce qu'il est hors de question d'avoir un accident après derrière. Donc en fait, c'est souvent des appels d'offres multiples qui se gagnent au bout d'un certain temps, si vous laissez des processus de vente qui sont assez complexes.
Donc vous êtes aussi en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur.
Et bien sûr,
notamment
bien sûr.
Pour la vérification des passeports.
C'est typiquement le cas de figure où la solution en fait est achetée, validée, vérifiée et connectée au système. Du ministère de l'Intérieur.
Et alors, dans vos constats, ça fluidifie le trafic de combien ? C'est-à-dire, ça diminue de combien de temps le temps d'attente ?
Alors, en fait, on peut gagner... Alors, je parlais par exemple tout à l'heure de l'embarquement, parce que je n'ai pas terminé mon petit parcours passager. En fait, ça va même jusqu'à l'embarquement dans l'avion. Le fait d'être identifié grâce à votre photographie juste avant la passerelle d'embarquement, on a fait des tests avec Iberia en Espagne, ça peut faire gagner jusqu'à 30% sur le temps d'embarquement.
30%
quand vous embarquez un A350 ou un 777,
il y a énormément de passagers.
Ça commence à faire du monde. Ouais.
Et sans compter que ce n'est pas les seuls. Ouais. Donc, il y en a énormément. Vous restez avec nous, Philippe Vallée. C'est absolument passionnant tout ce que vous nous racontez. Vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Et grâce à vous, on va sûrement éviter le cataclysme dans les aéroports cet été. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. Et aujourd'hui, nous parlons de la sécurité, notamment dans les aéroports. Nous sommes au début du mois de juillet. Alors, comment éviter le cataclysme annoncé dans les aéroports? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre l'avion cet été. Pourquoi? Parce qu'on veut rattraper ces deux années de perdu ou de mise entre parenthèses pendant ces deux années de crise sanitaire. Et ce sont eux qui fabriquent notamment les portails paraphes qui permettent le contrôle des passeports en vérifiant la photo sans agent, de façon à ce que l'on puisse fluidifier le trafic. Et eux, c'est Thales. Et nous sommes ravis d'être avec vous, Philippe Vallée. Vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. La recherche appliquée en intelligence artificielle concerne énormément de domaines, notamment dans la sécurité, dans la défense, dans la médecine ou encore dans la qualité de vie. Bonjour Raoul Bravo.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'Outsight, c'est de la reconnaissance faciale sans capter le visage et les identités. Vous avez mis au point cette technologie.
Oui, en fait, c'est proche, c'est pas exactement la reconnaissance faciale.
Alors,
en fait, on évite la reconnaissance faciale.
C'est une forme de reconnaissance faciale détecter le visage.
En fait, c'est les mêmes objectifs, ou une partie en fait, des mêmes objectifs, sans utiliser les mêmes moyens. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'utiliser des caméras, en fait, qui vont détecter la couleur, ils vont pouvoir dire est-ce que c'est vous ou pas, on va utiliser des capteurs qu'on appelle 3D. C'est des nouveaux types de capteurs qui sont tout nouveaux, en fait, qui sont très compliqués à utiliser, mais qui offrent en fait, des possibilités jusqu'à là assez uniques, puisqu'elles vous donnent les formes des choses, la taille, la dimension, la distance, etc.
Donc et ça reste très précis.
C'est très précis, mais c'est anonyme.
Et c'est là où vous différenciez. Alors, parce que c'est anonyme.
Alors, il y a deux différenciants. Un, c'est effectivement, c'est anonyme. Mais même si c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus technique à comprendre, c'est qu'il y a énormément d'autres avantages. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous utilisez une caméra dans un aéroport, vous ne pouvez pas vraiment savoir si deux personnes sont vraiment proches, physiquement en fait, à la même distance, ou est-ce qu'ils sont proches d'un point de vue de la caméra, mais dans la vraie vie, dans le sol, à l'aéroport, en réalité, ils sont loin. Pourquoi? Parce qu'une caméra, malgré ce qu'on peut imaginer, n'a pas la notion des distances. On ne peut pas savoir, en fait, si une chose est grande, loin.
Ce n'est pas la même échelle
petite.
Que la vue
c'est
normale.
Ce n'est pas la même échelle. Vous n'avez
et
pas.
Vous, oui.
Et nous, on a ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On touche la pointe de l'iceberg de ce qu'on peut faire. Mais on a déjà énormément d'applications, notamment dans des aéroports. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple des technologies que Thales déploie dans les aéroports, c'est une complémentarité très bonne puisque nous n'allons pas nous intéresser à la personne. L'opérateur de l'aéroport, par exemple à Charles de Gaulle ADP, le groupe ADP, a un intérêt à comprendre les flux des personnes comment les personnes se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas, est-ce qu'ils utilisent ou pas les ressources qu'on leur donne, met à disposition. Et pour ça, ils n'ont pas forcément besoin de savoir que c'est vous.
C'est pour du marketing finalement, plus que pour de la sécurité.
Alors, une première application, c'est la sécurité, mais en réalité, vous avez raison, ce n'est pas le principal usage, ce n'est pas comme ça qu'on a démarré, c'est ce qu'on appelle la excellence opérationnelle. Donc le marketing, ça peut être un aspect, mais en réalité, c'est, ça veut dire quoi?
Donc fluidifier, faire en sorte que les process soient les plus rapides.
Exactement,
les plus efficaces.
On n'a pas besoin de savoir que c'est vous pour savoir qu'en fait, il y a un attroupement des personnes, par exemple, au check-in, à l'enregistrement, on va retrouver ces personnes quelques temps plus tard à la sécurité. On va les retrouver, c'est mathématique. Et donc, si on détecte ça, si on sait en fait qu'est-ce qui est en train de se passer en amont, on peut gérer les ressources qu'on va mettre en aval. Et ça, ça nécessite d'avoir une compréhension globale des flux. Et ce qui est, comme on a bien mentionné avant dans les aéroports, c'est un écosystème dans lequel l'accès à l'information est morcelé.
Et on en fait quoi de l'information?
Donc on peut aujourd'hui, avec le groupe ADP, on a travaillé
sur... Donc vous travaillez déjà avec l'ADP, Aéroport de Paris.
On a effectivement annoncé il y a quelques temps qu'on avait déployé à Paris Charles de Gaulle. Si vous levez votre tête quand vous êtes dans la livraison de bagages, vous allez voir notre logo rouge.
On va regarder maintenant.
Voilà, maintenant vous allez peut-être regarder. Et donc on est effectivement aujourd'hui en train de monitorer ou de comprendre comment...
Donc ça veut dire que s'il y a un attroupement, ADP est prévenu, ramène plus de monde derrière les guichets, enfin j'en sais rien, pour fluidifier.
Exactement, on peut...
L'humain devient le blocage, en fait.
Voilà, en fait, on peut savoir effectivement combien de personnes sont en train de, par exemple, utiliser un certain convoyeur de livraison de bagages pour prévenir la compagnie aérienne suivante qu'il ne faudrait pas qu'il délivre les bagages dans ses convoyeurs, mais dans un autre.
Dans un autre, sur un autre tapis, parce que celui-là, il est déjà rempli. Vous en pensez quoi, Philippe Vallée, notre patron du jour, vice-président exécutif chez Thales?
Comme le dit Raoul, hein, c'est très complémentaire. Aujourd'hui, la problématique des aéroports, c'est voir finalement au quotidien comment évolue le trafic passager. Le lundi est différent du mardi, différent du samedi, évidemment. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure donc, de l'observation de ces données que recueille Outside, c'est effectivement de modifier les couloirs, la taille des couloirs, le positionnement des portails paraf, par exemple, et de manière à améliorer au fil de l'eau, avec l'expérience de ces flux, en fonction du jour de la semaine, d'organiser différemment les choses.
Ça serait idéal si on avait une espèce de continuum. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, les comportements des usagers, ils changent, je ne dis pas semaine après semaine.
Mais chaque minute.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé là en juillet, ne se passera pas l'année prochaine, en fait. Enfin,
non, mais
possiblement.
Oui et non. Vous retrouvez des modèles qui se reproduisent. C'est ça qui est intéressant. Enfin, Raoul peut en parler. C'est vraiment assez répétitif. Et c'est là où on peut optimiser.
Où l'intelligence artificielle intervient.
Voilà.
Exactement. Ce que vous dites est vrai. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais il y a des choses qui ne changent pas et tout est là.
Et vous repérez ce qui reste stable.
C'est exactement la question de dire comment on peut repérer des...
Vous êtes présent outside dans les aéroports, mais pas seulement, dans des usines aussi. Vous êtes présent dans quels autres...
Donc aujourd'hui, effectivement, je suis ici pour parler aéroports, mais la reconnaissance ou compréhension du monde en 3D de façon précise, ça applique à énormément d'applications. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des clients qui utilisent cette technologie pour la robotique, parce qu'un robot qui se déplace, il a besoin de comprendre ce qui se passe de façon précise autour de lui. C'est essentiel. Donc on a des clients en robotique, on a des clients dans l'infrastructure de routière, par exemple, pour comprendre comment les voitures, les piétons, les vélos, ils interagissent dans ce qu'on appelle Smart Cities.
C'est
dans les villes intelligentes. On a par exemple déployé à côté de Washington, aux États-Unis, en Floride, des solutions qui donnent en fait une perception très précise à l'utilisateur pour deux raisons. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on peut réagir tout de suite, par exemple, s'il y a un accident. On peut le détecter tout de suite.
Tentative d'intrusion.
Tout de suite, dans une notion de la sécurité périmétrique, etc. Donc, il y a une notion des temps réels qu'on appelle. Et ensuite, il y a une notion d'agrégation des données dans les temps. Si je prends un exemple, dans un de nos clients, on a aujourd'hui une base de données de 4 milliards
de
données 3D dans notre base de données, totalement anonyme, mais qui contiennent
C'est précieux d'informations pour pouvoir s'adapter en temps réel.
Exactement.
Comment vous avez eu cette idée? Vous êtes le cofondateur d'Outside, ça a à peine 3 ans. Elle vient d'où cette idée, Raoul Bravo?
Il vient de que je mentionnais que parmi nos clients, il y a des fabricants de robots, en fait. Donc moi-même, j'avais créé une société de robotique
vous
avant, ça s'appelle
Balio,
de la
robotique. Okay.
Qui est aujourd'hui cotée, hein, une société publique qu'on a cotée. Et donc j'étais en fait à la place il y a à peu près 20 ans, hein. On parle, on parlait un peu moins robotique à cette époque-là. J'étais à la place de clients en tant que pionnier. Donc, il était assez évident que tout le monde allait avoir besoin des mêmes types d'informations.
Et comme ça est né Outside. Oui, Nathalie.
C'est une sorte de. C'est quoi la différence entre votre technologie et les radars? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un radar.
Oui, il faut peut-être expliquer. Oui,
oui, effectivement, ce qu'on utilise, ce qu'on appelle des technologies LIDAR. Donc, c'est quoi le rapport? C'est que radar, ça vient des radios. Donc, on va utiliser des ondes.
Facile à... oui.
On utilise des ondes de radio.
C'est pas évident, non?
LIDAR vient des lumières, light, de lumière. Et donc, en fait, c'est un principe similaire, sauf que le signal qu'on envoie, ce n'est pas de la radio, c'est de la lumière. Concrètement, c'est du laser. Mais c'est un peu comme une chauve-souris qui fait des échos. C'est vraiment
c'est comme ça qu'on les voit comme ça marche.
C'est le même principe. En fait, vous envoyez un signal et vous attendez la façon quand il revient. Et cette mesure du retour permet de déterminer. Le LIDAR, c'est la technologie que vous avez derrière les iPhones. Aujourd'hui, si vous voulez prendre, si vous voulez prendre une photographie dans un environnement assez sombre, le LIDAR qu'a rajouté Apple permet en fait de mesurer en fait la profondeur de champ de façon très précise.
Mais oui, c'est vrai.
Et c'est une technologie. Ah ouais. C'est le petit œil noir que vous avez à côté des. Voilà, c'est un LIDAR.
Exactement. C'est un LIDAR. C'est intégral. C'est démocratisé.
Prochain dîner, vous avez vu mon petit LIDAR?
C'est ça, voilà. Exactement.
Merci Raoul Bravo, vous êtes le cofondateur d'Outside. Merci d'être venu.
Merci.
Aujourd'hui, dans La France bouge, il est 13h26 sur Europe 1.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France, et nous on le voit chaque jour, entre 13h et 14h, hein, Nathalie Carré. On y est, hein, et autour d'un grand témoin du jour. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Philippe Vallée. Vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Hein. Thales, c'est l'un des acteurs, notamment de l'aéronautique, à avoir le mieux traversé la crise liée à la pandémie. Le groupe Thales qui fait en sorte que chacune des étapes dans les aéroports se fasse de manière la plus fluide possible grâce à des petits bijoux de technologie. Alors pour cet été, Philippe Vallée, les manques se font sentir aussi bien, on le voit, chez les gestionnaires des aéroports que du côté des compagnies aériennes. On est face à une situation globale. C'est davantage lié au manque de personnel parce que les technologies, on le voit depuis le début de l'émission, elles existent, elles sont là. Vous avez dit que ça peut diminuer le temps d'attente dans les aéroports de près de 30%, mais le problème, il est aussi humain.
Oui, et d'ailleurs, si vous voulez, pour revenir à l'exemple de Paraf, on dit qu'il y a toujours un humain derrière la machine. En l'occurrence, en fait, vous avez un officier d'immigration.
Oui, ils sont toujours à côté
qui
pour vérifier.
Toujours, en fait, et je crois que le ratio, c'est à peu près 5 portes pour un officier. Hein. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'automatiser le plus possible le passage de manière à dédier les personnels à des tâches beaucoup plus à valeur ajoutée, si vous voulez. Donc, en fait, un officier qui contrôle 5 portails Paraf, ça permet, en fait, à la police de l'air des frontières de mettre des officiers à des tâches beaucoup plus efficaces, d'aller contrôler certaines personnes, enfin ce genre de choses. Et l'idée en fait de cette expérience fluidifiée, c'est la même chose pour les autres catégories de personnel. C'est vraiment, on parlait tout à l'heure par exemple de ce scanner en 3 dimensions qui permet de scanner les bagages sans sortir vos liquides. Ça permet en fait d'employer moins de personnes à ce contrôle très automatisé pour mettre en fait des personnels ailleurs dans l'aéroport.
Il y a des tâches plus...
Donc en fait, des tâches plus de leur ajouter. Et en fait c'est ça aujourd'hui
l'enjeu est là dans les aéroports. Si et vous vos clients, donc il y a Roissy, il y a Orly, ils sont là, ils sont en train d'étudier ces nouvelles formes de scanner. Ça pourrait venir quand sur la table, même si vous êtes en concurrence avec d'autres, qu'il y a des appels d'offres, etc.
Ça va venir assez rapidement.
On en a besoin.
Oui, non, mais c'est des choses qui vont venir très rapidement. Oui.
Alors, donc il y a un besoin d'humains. On le voit. On sait que c'est lié aussi à un manque de personnel. Vous venez de dévoiler chez Thales l'ampleur de votre plan de recrutement pour 2022. Vous comptez embaucher 11 000 personnes dans le monde, dont 4 000 en France.
Oui.
C'est énorme.
Oui, et parce qu'en fait, on accompagne la digitalisation de nos clients, hein, que ce soit des banques, des opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs d'aéroports. Et en fait, on a un énorme besoin de recrutement en ingénieurs.
Mais donc voilà, quel profil?
Alors, on vous explique. Des ingénieurs, il n'y en a plus.
Voilà. Alors, la France forme des ingénieurs quand même. Vous avez des bonnes écoles d'ingénieurs en France. Donc, effectivement, l'idée, c'est de les attirer.
Oui, c'est ça.
Mais là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler chez Thales?
D'abord, c'est le choix des technologies. Hein. On a parlé tout à l'heure de technologies LIDAR, par exemple, Thales fait ce genre de technologie.
Ah oui.
La lumière, voilà. Mais bon, après, on fait des radars, on fait des sonars aussi, hein, d'autres Radio. Formes d'ondes. Mais c'est aussi, en fait, la possibilité d'utiliser, de mettre en œuvre l'application, enfin, l'intelligence artificielle de façon éthique, la biométrie de façon éthique. Et je pense en particulier à toutes ces applications, en fait, qui requièrent une très forte responsabilité en termes de protection des données privées. En fait, aujourd'hui, on forme nos ingénieurs
Vous avez une école au sein même de Thales ?
Non, on n'en a pas. Mais en fait, on forme nos ingénieurs une fois qu'ils sont embauchés. Vous savez, un ingénieur aujourd'hui, ça apprend pendant 3 ans et au bout de 2 ans, ça va se reformer une nouvelle technologie. C'est assez rapide
en fait.
C'est
sans cesse, oui.
Et donc l'idée, c'est aussi de faire un très très gros effort sur la formation interne. Hein. On a développé alors sous forme, on va dire, personnelle, hein, avec des plateformes d'apprentissage sur nos réseaux intranet, mais aussi avec des cours. Mais l'idée, c'est de former en permanence nos personnes justement pour les motiver à rester chez nous. Et alors l'avantage de Thales, c'est qu'on est présent partout dans le monde. Et donc en fait, on peut embaucher un jeune ingénieur en France et le faire voyager après au Canada, au Mexique, à Singapour, en Roumanie, pour aller développer d'autres technologies dans d'autres activités du groupe. Donc c'est l'idée aussi de ce parcours global qui est proposé par Thales.
Mais quand vous dites qu'il faut qu'ils se forment au fur et à mesure, vous allez les chercher où, les formateurs les ingénieurs qui vous venez d'embaucher ?
Le principe de base, c'est que ce sont les anciens qui forment les nouveaux, les
juniors. Oui, mais il faut qu'ils soient mis au goût du jour aussi.
Ah oui, non, mais c'est une espèce de formation.
C'est une course à l'échalote, parce qu'en plus, plus vous êtes bon, plus vos clients sont bons. Je pense à Rafale, par exemple. Le fait qu'il y ait des technologies Thales à l'intérieur, ça a dû aider à la vente, une compétition
vis-à-vis effectivement des concurrents du Rafale qui nous oblige à faire des radars de plus en plus précis et donc de rajouter des radars de type logiciel. Aujourd'hui, Thales en fait est le numéro un mondial du contrôle aérien. Bon, aujourd'hui, ce contrôle aérien est de plus en plus basé sur des technologies software. On sait très bien que si on était capable d'optimiser les procédures d'atterrissage et de décollage des avions, en fait, on pourrait faire gagner 10% de kérosène.
Et ça, vous intervenez aussi là-dessus?
Oui, sur on intervient en fait sur la trajectoire de l'avion au décollage et à l'atterrissage. Alors, c'est plus important au décollage, puisque l'avion est lourd et chargé de kérosène. Mmh. C'est moins important à l'atterrissage, puisqu'il plane plus, si vous voulez. Mais en fait, on peut optimiser énormément. En attendant le carburant plus propre, c'est aussi une façon d'économiser énormément de kérosène.
Et donc, vous travaillez en direct avec les compagnies aériennes former les pilotes à cette trajectoire.
En fait, on installe à bord des avions. Donc, on travaille aussi avec les constructeurs d'avions, Airbus en particulier. On installe à bord des avions en fait des calculateurs de vol qui permettent d'optimiser la trajectoire en fonction des perturbations que la trajectoire va rencontrer au passage, donc les éviter de surfer dessus comme un oiseau.
Voilà. C'est passionnant.
On aura pris plein de trucs.
Et puis donc 4000 personnes en France, 11 000 dans le monde en termes de recrutement chez Thales. Et puis c'est important de le dire que vous n'avez procédé, contrairement à d'autres, à aucun licenciement ces 2 dernières années.
Non, quand l'activité avionique a connu beaucoup de difficultés à cause du Covid, puisque toutes les compagnies aériennes ont mis leurs avions au sol, en fait, ce qu'on a fait chez Thales, c'est qu'on a créé un centre de R&D commun, partagé à toutes les activités, et on y a mis, en fait, on y a logé nos ingénieurs extrêmement compétents dans un centre en fait multiservice qui nous a permis en fait de puiser des ingénieurs qui étaient après utilisés pour faire développer d'autres produits qui eux n'étaient pas en récession et ça nous a permis de ne pas faire de licenciement effectivement notamment dans ce pool d'ingénieurs qui nous est extrêmement précieux chez Thales.
Thales, une fierté française.
Hein. Non, complètement.
Chaque jour dans la France bouge, Philippe Vallée, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui traverse les années, qui sont toujours là en France, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui dans cette émission autour de cette sécurité, on va découvrir l'histoire des fameuses clés, fichiers, hein, vous les connaissez, Nathalie, vous en plus vous êtes en plein aménagement en ce moment.
Oui, alors ça c'est quand même le truc que je ne l'ai pas encore, mais oui, je connais bien fichiers.
Penser. Oui. Cette entreprise française est née il y a 200 ans et c'est la saga du jour.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
Cette entreprise française Fichier a commencé ses innovations il y a 200 ans avec une serrure innovante.
Oui Elisabeth, c'est en 1825 avec Alexandre Fichier. Il est serrurier à Paris et il met au point une serrure incrochetable, une révolution dans le secteur de la sécurité. Il dépose alors des brevets, devient même le serrurier officiel de Louis-Philippe. Un succès confirmé avec l'invention d'un autre produit. C'est ce que nous raconte Julien Laforêt, président de Fichier Group.
Il a ensuite inventé en fait le coffre-fort hein, moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est de là en fait que le nom de Fichier est devenu si connu et qu'il a été synonyme de à la fois sécurité, de qualité. Il a été cité aussi, ce coffre, en tout cas la marque à l'époque, Fichier, a été cité dans pas mal de livres d'Alexandre Dumas, d'Honoré de Balzac également.
Et au même moment, Charlotte, une autre entreprise entre en scène, c'est l'entreprise Bausch, B-A-U-C-H-E, on ne confond pas avec Bausch, hein, B-O-S-H.
Exactement, Elisabeth, et c'est pas, ce n'est pas du tout un détail, les deux sont liés. Bausch, c'est le spécialiste des matériaux pour les coffres-forts, et ils réalisent eux aussi une prouesse, un coffre ignifuge, donc qui ne peut pas prendre feu. Le fondateur Auguste Nicolas Bausch a d'ailleurs fait une expérience, 15 000 euros en billets, dans un coffre-fort, sur un bûcher.
Oh, oui, oui, oui,
et même une heure après, les billets sont restés intacts. Alors les deux entreprises fusionnent en 1967 et deviennent Fichet Bausch, le géant de l'industrie française du coffre-fort.
Alors pour qu'on le comprenne bien, c'est quoi un coffre-fort?
Alors Elisabeth, les vrais coffres-forts doivent être certifiés et pour être reconnus par les assureurs, ils doivent répondre à différentes normes, comme par exemple être fixés sur un sol en béton. S'ils pèsent moins d'une tonne, ils sont classés en 5 catégories en fonction de leur robustesse et du temps que l'on met pour les ouvrir. Alors si vous souhaitez investir, Elisabeth, 1 500 euros, c'est le premier prix pour un coffre-fort. Voilà. Et ça peut s'envoler jusqu'à des dizaines de milliers d'euros si vous voulez du sur-mesure.
Surtout que j'ai pas de lingot à mettre à l'intérieur.
Sait-on jamais.
Ça va aller. Au fil du temps, Fichet ne se contente plus seulement des coffres-forts. Ça se diversifie.
Exactement. Chambre forte, porte forte, armoire ignifuge et alarme. 2 siècles de sécurité pour les commerces, les entreprises ou encore les banques. À Paris d'ailleurs, on peut admirer encore aujourd'hui l'un des plus vieux coffres-forts de l'entreprise.
À la Société Générale Boulevard Haussmann à Paris, une chambre des coffres hein, qui est toujours existante, qui se visite, dans laquelle on va trouver une immense porte ronde de 18 tonnes hein, qui a été installée en début du siècle dernier. Derrière cette porte ronde va se trouver à peu près 8000 coffres qui sont positionnés sur plusieurs niveaux. Et c'est une des réalisations, je dirais, de l'entreprise qui fait toujours partie de notre patrimoine.
Alors dans les années 80, Fichet se détache de Bausch et se diversifie encore plus en faisant par exemple de la télésurveillance et commence à s'adresser à un nouveau type de clientèle.
Le premier segment concerne les sites sensibles. Donc on va retrouver dedans, je dirais, tous les endroits où il y a des menaces particulièrement fortes. Les bases militaires, les ambassades, les lieux de pouvoir, les data centers, les labos de recherche, tout ce qui est site industriel, site Céveso, etc. On va réaliser différents types de produits, certains de contrôle d'accès pour permettre de bien définir qui a accès à telle zone sur ces sites-là. On a également développé depuis toute une gamme de portes, de cloisons, de vitrages de sécurité qui combinent en fait plusieurs résistances à l'effraction, au feu, également à tout ce qui est balistique et explosif.
Alors Fichet fabrique en France sur 2 sites, un à côté de Reims et un autre vers Colmar, en tout 800 salariés. Et l'entreprise exporte presque 30% de son chiffre d'affaires et réalisé à l'étranger, un chiffre qui devrait d'ailleurs augmenter dans les prochaines années à la conquête de l'Afrique et du Moyen-Orient.
Merci Charlotte Barrican pour cette saga Fichet Group. On apprend des tas de choses aujourd'hui. Hein.
Oui, ils deviennent un peu votre concurrent chez Thales, non ?
Alors, oui et non, parce qu'en fait, on peut travailler en partenariat avec eux sur la partie contrôle de l'accès, mais moi, j'avais envie de vous parler d'un autre coffre-fort, en fait.
Ah, et le coffre-fort numérique.
Et voilà, c'est celui que... On a le temps, là?
Oui, mais bien sûr, on a le temps.
C'est celui que vous avez dans votre téléphone mobile. Quand vous téléchargez, en fait, vous activez Apple Pay dans votre téléphone mobile, en fait, Thales met en connexion la banque, donc l'émetteur de la carte physique, qui va dériver un jeton qui va être téléchargé à travers les airs dans un coffre-fort qui est une puce dédiée qui est sur le smartphone et qui permet en fait d'activer Apple Pay. Voilà. Et c'est une clé en fait.
Donc quand vous voyez Apple Pay, c'est Thales qui est derrière.
Et ça marche chez Google et ça marche pas...
Ça marche chez Google Pay, ça marche chez Samsung Pay.
Et c'est vous qui l'avez inventé?
Non, c'est pas nous qui avons inventé le processus, mais on est leader mondial en fait de ces composants sécurisés dans lesquels vous pouvez stocker la clé de paiement de votre carte en fait, qui est un dérivé de votre carte physique.
Vous restez avec nous, Philippe Vallée, vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez le leader mondial de tout cela, c'est Thales. Vous restez avec nous, les 13h41 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Exigeant, attentif, bienveillant, il nous apprend plein de choses en plus aujourd'hui, c'est un expert. Aujourd'hui c'est Philippe Vallée, vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité, la sécurité numérique chez Thales. Toujours à mes côtés, Nathalie Carré, la Chambre de commerce et d'industrie bien sûr. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Richard Bécard.
Bonjour.
Vous êtes un petit peu loin en fait, vous n'avez pas pu être en studio aujourd'hui, c'est pour ça que si vous entendez un léger décalage, c'est parce que vous êtes loin de nous, mais évidemment avec nous. Richard Becker, vous avez 42 ans, vous êtes le fondateur de Netiful, N-E-T-I-F-U-L. C'est une solution de protection et de filtrage internet pour les enfants, pour protéger les enfants des méfaits du numérique. Vous venez de Dax, vous êtes un passionné de technologie puisque pendant plusieurs années vous avez été directeur technique et en 2017, vous avez eu un déclic. Ce déclic, ce sont vos trois enfants. Vous vous êtes demandé ce qu'ils allaient voir sur Internet, comment réguler tout ça. Eh bien, le reste, vous allez nous le raconter avec Netiful. Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti.
Donc, Netiful est une entreprise landaise qui développe une solution de protection Internet spécialement conçue pour les enfants. Donc nous avons deux gammes de produits, donc un produit matériel pour les écoles, donc qui vient répondre aux problèmes des collectivités, notamment les mairies qui doivent équiper les écoles d'une solution de filtrage Internet. C'est un boîtier plug and play qui vient automatiquement adapter Internet au fonctionnement des enfants pour leur permettre d'utiliser le numérique et d'être formés sur les outils numériques à l'école, notamment pour les cycles 3, les CM1, CM2, qui peuvent avoir accès à l'outil informatique, les tablettes, et éviter de tomber trop facilement sur des contenus inappropriés, puisqu'aujourd'hui, on fait une recherche sur un moteur de recherche, en quelques secondes, on peut afficher des contenus inappropriés. Donc grâce à ce boîtier, on va automatiquement adapter les contenus. Et un nouveau boîtier donc qui arrive, qui est le boîtier donc contrôle parental pour le grand public qu'on installe à la maison sous la forme d'une box.
Je ne sais pas si vous avez entendu Richard, mais il y a eu un petit gong. Donc ça veut dire que le pitch est terminé.
La minute est vite passée,
mais on a bien compris. Netiful, c'est l'ange gardien de nos enfants sur Internet. Je me tourne vers Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les projets des pitchers. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Netiful?
Alors moi, je vais réagir sur Netiful version maison, puisque la version école est déployée déjà dans plusieurs écoles. Alors les points positifs, c'est pour les deux d'ailleurs, la facilité d'installation, pas d'appli à télécharger, de compte à créer, de mode d'emploi à lire, deux câbles, deux clics et hop, c'est fait. Du coup, on peut l'emmener en vacances chez papy, mamie, ça suit l'enfant et donc sa protection, il embarque sans protection avec lui. Vu que en fait, c'est une sorte de Wi-Fi filtré, pas besoin de paramétrer chaque site internet ou chaque appareil, simple. Alors, un point amélioré et une idée pour la suite. Pour être cohérent avec la simplicité de votre solution, il faudrait une communication plus simple et directe que celle que vous avez actuellement. Vous avez 6 secondes pour nous convaincre de rester sur votre site internet et guère plus pour nous convaincre d'acheter. Donc je vous propose 1. La raison d'être de Netiful. Le contrôle parental, aussi simple qu'à claquement de doigts d'ange gardien, vous pouvez demander à Mimi Mati de vous l'écrire. 2. Les avantages. Il existe plein de systèmes de contrôle parental, le vôtre est différent. Montrez-le, mais simplement un tableau comparatif en insistant sur 3 points essentiels. La simplicité d'installation, de mise à jour et la sécurité. 3. Les détails sur les points essentiels, notamment les mises à jour, comment ça marche, est-ce qu'elles sont automatiques. Pour la sécurité, donc n'hésitez pas à accréditer du sérieux de votre solution en indiquant que vous avez une version pour les écoles qui est déjà utilisée. Et au fait, il s'agit juste d'un canal de Wi-Fi. Si l'enfant veut aller sur des sites que vous bloquez, il suffit de changer de canal Wi-Fi, non ? Comme on fait. 4. Comment on installe et comment ça marche ? Une fois le Wi-Fi enfant installé, il a le droit à quoi ? Uniquement aux vidéos de Oui ou il peut aussi aller sur TikTok ? Quel type de contenu sera bloqué ? Et l'équipe de rap avec des jeunes femmes à moitié nues, il pourra les regarder ou pas ? D'ailleurs, s'il utilise ses données mobiles et pas la Wi-Fi, il n'y a plus de contrôle, si ? Ensuite, vous parlez du fait que votre solution est éco-responsable. Puis une idée pour la suite. Là, vous bloquez l'accès au contenu. Mais nos enfants ne vivent pas dans une bulle. Ils ont accès au web absolument partout. Donc peut-être que plutôt que de faire comme si les contenus dangereux n'existaient pas, puisqu'inévitablement, ils vont tomber dessus, votre solution pourrait les bloquer, mais avec une explication. Par exemple, là, ta recherche web, elle est emmenée vers un site pornographique. La pornographie, c'est ta-ta-ta-ta. Il est dangereux pour toi de regarder ces contenus parce que ta-ta-ta-ta. N'hésite pas à en parler avec un adulte avec lequel tu te sens à l'aise. Si tu es vraiment curieux, il pourra aller voir avec toi quelques instants et t'expliquer ce que tu vois parce que c'est de la fiction, mais il faut des explications. Et oui, c'est bien connu, ce qui est interdit est attirant. Ainsi, Netiful sera l'ange gardien du Wi-Fi qui accompagne les enfants vers leur vie numérique de grand.
C'est brillant, comme chaque jour. Merci Nathalie Carré. Richard, comment vous réagissez ? Nathalie vous a donné des tas d'indications. C'est vrai que c'est intéressant le côté pédagogique, c'est-à-dire c'est pas juste interdire, mais c'est expliquer pourquoi.
Tout à fait. Donc il faut faire de la prévention. Ouais. Netifoolbot est un outil et l'important effectivement c'est la relation parent-enfant. Donc nous on est là effectivement pour appliquer un contrôle parental par défaut et c'est aux parents de faire attention effectivement comment est utilisé le numérique avec parcimonie au niveau du foyer. Donc on a déjà intégré un certain nombre de choses qui permettent d'indiquer à l'enfant quand il va sur un site pourquoi on a bloqué le site, pourquoi ce site n'est pas accessible, de façon à ce qu'il comprenne que potentiellement il va tomber sur un contenu dangereux. Voilà, donc on est dans un outil qui va permettre d'adapter le web, mais il ne faut pas oublier le rôle majeur des parents là-dedans.
Oui, qu'il y ait un contrôle parental ou pas, le rôle est les majeur.
En même temps, c'est notre métier d'éduquer. On ne peut pas sous-traiter ça à une boîte.
Absolument. Ni à l'intelligence artificielle.
Oui, exactement.
Vos projets, vos besoins, Richard, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, au-delà des bons conseils de Nathalie Carré? Je crois que vous voulez aussi vous étendre vers les entreprises.
Oui, alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place un réseau de distribution de façon à ce que des magasins informatiques puissent proposer notre solution grand public. Et on est en train effectivement de réfléchir à une plateforme de cybersécurité pour les entreprises. Voilà.
Bon, c'est bien ça. Ça va aller loin hein, d'aller une fois passé par l'école, le particulier, maintenant la cybersécurité dans les entreprises. Vous allez vous développer le plus possible. Qu'en pense notre témoin du jour, Philippe Vallée, vice-président exécutif chez Thales?
Ouais, je dirais que c'est très très important en fait de mettre l'humain au cœur du système hein, pour justement apprendre et sensibiliser. Si je fais parallèle, par exemple, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. L'idée que nous avons en fait chez Thales de l'intelligence artificielle, en fait, c'est de la mettre au service de l'humain et donc d'avoir un système en fait qui permet d'apprendre. On parlait tout à l'heure, par exemple, des mouvements en fait typiques à Charles de Gaulle. Et après, derrière, c'est un humain qui décide cette prise de décision doit être absolument éthique et tout à fait documentée et informée. C'est ça qui est important.
C'est important. Donc c'est ça aussi, hein, c'est mettre l'humain au cœur de chaque chose, de chaque aspect du numérique, hein, Richard.
Exactement, tout à fait. Mmh. C'est le plus important. Internet est un excellent outil hein, qui doit être maîtrisé. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient très compliqué, un petit peu incontrôlable parce que dans sa version actuelle, il est géré par quelques
et puis effrayant pour les parents.
Oui.
Dire,
hein. C'est très compliqué pour tout à fait. Et donc il faut revenir sur un outil beaucoup plus maîtrisé où l'humain est au centre du projet.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est un outil. Personne n'aurait l'idée d'utiliser une tronçonneuse sans qu'on nous l'ait montré.
Sans avoir un manuel.
Un être humain à côté. Et là, le web, tout le monde y va tout seul,
parce que c'est très intuitif aussi.
Et c'est ça.
En tout cas, merci beaucoup, Richard Bécard. Hein, vous êtes le fondateur de Netifool, cette solution de protection et de filtrage Internet pour protéger nos enfants, l'ange gardien de nos enfants sur Internet. Merci d'avoir été aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.
Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Ma prochaine édition, hein, la 8e, ce sera l'année prochaine. En 2023. Il est 13h52 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge, vous êtes au bon endroit pour découvrir nos entreprises françaises, nos pépites françaises, nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Philippe Vallée. Vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Petite question d'actualité, si vous voulez bien, Philippe Vallée. Il se dit que Thales souhaite racheter la branche cyber d'Atos. On sait qu'Atos est en pleine turbulence en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Philippe Vallée?
Ouais, je répondrai qu'on n'a pas de commentaire à faire. Effectivement, c'est une rumeur qui circule, mais Thales n'est pas sur le dossier. Non.
Pas du tout. Donc, vous, rien du tout, rien au bout du jour concernant
circuler.
Bon. En tout cas, nous, à La France Bouge, on aime mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés, les patrons qui proposent des évolutions de carrière, des formations, comme chez vous, Fabrine Frestel. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Vous êtes la responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est chez MGI, c'est une entreprise qui a plus de 35 ans. Vous éditez des solutions informatiques dans le transport international. Il y a 50 salariés chez vous et vous êtes basé à Marseille. Si vous êtes en direct là dans la France Bouge, c'est parce que vous avez décidé de former vos salariés. Vous passez par une start-up qui s'appelle Sirius Coach en cybersécurité. Et vous, donc, vous proposez de former vos salariés en cybersécurité. Pourquoi cette idée ?
Alors, en fait, nous interconnectons donc l'ensemble des acteurs d'une place portuaire et aéroportuaire. Donc, nos flux sont super sensibles. Donc, nous nous sommes lancés dans la cybersécurité en 2016 en voulant nous certifier ISO 27001. Nous avons été certifiés en 2017 et renouvelés en 2020. Et grâce à cette certification et notamment notre analyse de risque et tous les risques associés, nous avons dû développer et mettre en place des dispositifs techniques de sécurité. Mais il faut savoir que 99% des cyberattaques requièrent une action humaine pour se propager. Donc depuis 2016, nos collaborateurs sont donc sensibilisés à la cyberdéfense. Alors, nous avons d'abord démarré tout simplement avec des comités mensuels, des cafés ISO, etc., où nous abordions les cyberactualités, les bonnes pratiques, la bonne hygiène numérique. Et puis, compte tenu du contexte et puis la recrudescence de tout ce qui était attaque, les ransomware, les phishing, le spear phishing, enfin, je pense que vous connaissez tout ça, hein, les arnaques, CPF ou autres, la carte vitale, les faux conseillers bancaires. Nous avons créé un partenariat avec Sirius.
Oui, donc justement, c'est une start-up qui, elle, accompagne vos salariés dans cette formation en cybersécurité. Par exemple, je crois que c'est sur la gestion des mots de passe, par exemple. Toutes ces choses-là, si on se fait pirater, comment on pirate un mot de passe ? Ça peut être ce genre de questions.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, Sirius, donc coach virtuel en cybersécurité, concrètement, ils accompagnent les collaborateurs de MGI qui ont un accès donc à ce coach virtuel sous la forme de chatbot. Et ils vont échanger avec eux toutes les semaines sur des sujets cyber. Ça ne prend que quelques minutes par semaine. Et là, vous parlez des mots de passe. Donc, comment créer un mot de passe robuste, comment éviter de se le faire craquer et surtout bien les changer tous les trois mois.
Ils réagissent comment, vos salariés, quand vous leur proposez ce genre de formation ? Ça leur plaît ? Ils ont envie de le faire ou c'est un truc un peu imposé et...
Non, mais... Alors, je dirais que depuis, nous sommes vraiment dans la cybersécurité depuis 6 ans maintenant.
Ouais, donc ça fait, vous avez un petit recul, quoi.
Voilà, c'est ça. Et au départ, c'était vraiment un gros changement. Et puis là, même à titre personnel, on voit qu'on est attaqué tous les jours. Donc, ils sont super sensibilisés et ils sont toujours dans le vent, quoi. Ils me posent toujours des questions et en plus avec le coach cybersécurité Sirius, on peut mesurer la performance de chaque collaborateur et mesurer la faiblesse en fonction de la thématique de la cybersécurité.
C'est pas mal en termes d'information de chaque collaborateur. Voilà, merci en tout cas. Merci Fabrine Frestel, vous êtes la responsable sécurité chez MGI. Hein. Vous formez vos salariés à la cybersécurité. Vous, Nathalie, vous me disiez que vous avez à la CCI, on propose aussi.
Oui, on nous a testé effectivement, voir si on n'ouvrait pas des messages frauduleux et qui justement déclenchent des attaques. Ça va.
Ça va. Philippe Vallée.
Ah oui, mais enfin, nous, on a les 8 consignes fondamentales qui sont portées sur le badge de chacun des employés de Thales.
Ah oui, ça
va. Les règles de base, mais c'est tout simple. Hein. Oui. Vous fermez votre ordinateur quand vous partez de votre bureau pour aller.
C'est bête que ça, oui. Ah, bah, oui.
Vous ne le mettez pas en veille.
Non, vous
le
fermez.
On met pas en...
Non, vous l'éteignez.
On l'éteint. Ouais, merci on à vous, Philippe Vallée, vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Merci d'avoir été aujourd'hui dans La France Bouge. Parmi
Merci
nous,
beaucoup.
On a appris des tas de choses grâce à vous, Thales. Et dans les aéroports, tous les systèmes que vous voyez pour fluidifier le trafic, et derrière tout ça, il y a le leader qui est Thales. Merci d'avoir été parmi nous. Nathalie Carré, on se retrouve demain avec le patron d'Auchan Retail France. Comment Auchan s'organise face à l'inflation ? Réponse demain, tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat.